Cet après-midi, je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Et ce que je vais dire fait un peu suite à ce que nous avons vu ces dernières semaines concernant le parler en langue. Nous allons parler d'un autre domaine de la vie de l'esprit qui est très important et qui nous concerne chacun d'entre nous. C'est l'exercice des dons spirituels et particulièrement le don de prophétie. Nous lisons donc 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1er. Et Paul écrit « Recherchez l'amour et aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. » Alors, dans le monde chrétien, on pourrait poser cette question à la manière des évangiles. Que peut-il venir de bon de France ? Et dans le milieu chrétien, on regardera vers tel ou tel pays, de l'autre côté de l'Atlantique ou dans une autre extrémité de la Terre, mais venir de France quelque chose de bon, on laisse des points de suspension. Pourtant, nos cultes ont une richesse particulière, ont une saveur particulière, car dans nos assemblées, dans nos cultes, la louange spontanée, la louange individuelle comme collective a toujours été encouragée. Et encore plus, la manifestation des dons spirituels, en premier lieu la prophétie. Et je dis que c'est une richesse qui est loin de se retrouver partout. Même dans ces églises dont nous parlons souvent. Et plusieurs frères de l'étranger connaissant nos assemblées de France m'ont dit « Vous avez cette richesse que l'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays, cette vie de l'esprit, cette manifestation des charismes et de la prophétie, en particulier dans vos cultes. » Nos pères dans la foi, et là je parle de ceux du XXe siècle, nos pères de la Pentecôte, en France ont été particulièrement touchés par la promesse du Saint-Esprit et par cette idée, cette notion de don de prophétie. Comprenons que pour beaucoup d'entre eux, ils provenaient d'églises où la parole était le fait exclusif du clergé. Et dans les années 20-30, quand on allait à l'église, vous y mettrez ce que vous voulez derrière, la plupart du temps, on suivait quand il fallait se lever, s'asseoir, réciter des choses dont on ne comprenait rien, et c'était tout. Et quand ils ont découvert le plein évangile, et quand ils ont compris qu'ils étaient aux yeux de Dieu des sacrificateurs, avec cette grâce qui leur était accordée de louer Dieu spontanément, mais aussi de devenir des prophètes dans l'assemblée, en manifestant les dons spirituels, ça a vraiment été pour eux comme un privilège, une grâce dont ils mesuraient la valeur. Enfin, l'Église, telle que la Bible l'a décrit, une Église où les hommes peuvent louer, où les hommes peuvent apporter une parole de la part du Seigneur. Et nos cultes se sont développés en laissant, dans le respect des règles bibliques, les dons spirituels et la vie de l'Esprit se manifester. Combien de cœurs ont-ils, à travers les années, les générations, combien de cœurs ont-ils été consolés par une parole de Dieu ? Combien de vérités bibliques ont-elles été établies, consolidées par une parole prophétique riche d'inspiration et d'autorité biblique ? Combien de frères, de sœurs ont-ils été avertis, conseillés quant à une décision à prendre par une parole prophétique ? Combien de jeunes gens ont-ils reçu une confirmation quant à un appel de Dieu pour leur vie à travers une parole prophétique ? Nos cultes, mais aussi notre foi, notre vie sont tout entiers pétris de cet héritage. Et je pourrais poser la question, et je le fais, combien d'entre nous ont été marqués dans leur vie par une parole de prophétie donnée au cours d'une église, au cours d'une assemblée ? Et nous pourrions lever la main, de dire oui, je fais partie de cela, je vois des mains qui se lèvent. Oui, un jour la parole de Dieu a retenti dans mon cœur, un frère, une sœur a prophétisé. Et cette parole a touché ma vie, a changé ma vie. Mes frères et sœurs, jeunes gens, il nous appartient de maintenir cet héritage et il nous appartient de le faire fructifier. Nous devons demeurer un mouvement, nous devons demeurer des assemblées avec des cultes marqués par la parole prophétique. La manifestation des dons de l'Esprit, la manifestation de la parole prophétique est ce qui a assuré la stabilité, la pérennité et le développement de nos assemblées. Tous les dons spirituels sont importants, évidemment. Mais nous avons lu dans notre texte que l'apôtre Paul insiste particulièrement sur le don de prophétie. Et l'essentiel de l'enseignement du chapitre 14 de cette première épître aux Corinthiens est consacré à l'exercice du don de prophétie. Pourquoi ce don est-il important? Pourquoi insiste-t-il tant dessus? Eh bien, pour la raison suivante, c'est que le don de prophétie est un don d'assemblée. Plusieurs dons spirituels peuvent être accordés dans le cadre privé. Nous pouvons recevoir pour nous-mêmes, dans nos temps de prière, ou comme cela, à un instant ou un autre, une parole de connaissance, une parole de sagesse, un don de foi. Mais le don de prophétie se conçoit avant tout dans le cadre du culte de l'assemblée. Voilà pourquoi Paul insiste tant dessus, mais aussi parce que la prophétie poursuit des buts importants. Il dit par ailleurs que la prophétie est donnée pour édifier, pour exhorter et pour consoler. Et Paul dit de la prophétie qu'elle est un signe. Alors si vous vous rappelez ce que j'ai dit concernant ce mot signe, séméion, dans le cas des langues nouvelles, du parler en langue, un signe, c'est une marque, c'est la signature de Dieu. La prophétie, le don de prophétie, c'est une signature de la présence et de l'action du Saint-Esprit au sein d'une assemblée. Dieu parle, Dieu agit au milieu de nous. Si Paul enfin insiste beaucoup sur le don de prophétie, c'est parce que nous sommes tous concernés par l'exercice de ce don. Nous croyons dans la promesse divine que Dieu veut faire de chacun de nous, de nous qui croyons en Jésus-Christ, dans la bonne nouvelle, des prophètes. Dieu veut faire de nous un peuple de prophètes. Paul écrit par deux fois dans ce chapitre 14, « Si tous prophétisent !» Et ensuite, vous pouvez tous prophétiser successivement. Tu n'es pas exclu. Mais tu fais partie de ce projet. Et Dieu veut faire de toi un instrument de la manifestation du Saint-Esprit au sein de son assemblée. Alors d'abord, venons-en à quelques points de base concernant la prophétie. Et tout d'abord, qu'est-ce que le don donc de prophétie? Comme le nom l'indique, il s'agit d'un don. Et plus particulièrement, comme Paul l'appelle, d'un don spirituel. Ça veut dire qu'il vient de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une quelconque capacité spirituelle personnelle. Ça vient de Dieu. Et c'est une manifestation, tel est le mot, une manifestation du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels à qui il le veut et comme il le veut. C'est une grâce de Dieu. Je veux aussi insister sur la dimension universelle, je l'ai dit. Le don de prophétie est accordé à tous ceux qui croient et qui sont pleins de l'Esprit sans sélection de personne. Le Saint-Esprit est prêt à tous nous utiliser. C'est son désir. Ce que je veux dire par là, c'est que le don de prophétie, ce n'est pas, entre guillemets, un ministère auquel certains sont appelés, sont mis à part. Mais qui que nous soyons, comme le texte de Joël le dit, jeunes gens, serviteurs, servantes, nous sommes appelés à prophétiser, car tel est le plan du Seigneur pour son Église, et tu y as part aussi. Venons-en au verbe prophétiser. Comprenons ce que veut dire prophétiser, ça, c'est important. Prophétiser est composé de deux mots grecs, pro, le préfixe pro, qui signifie deux choses. Qui signifie avant ou devant. Avant ou devant. Et puis, phémie, qui veut dire je dis. Il y a donc deux pensées qui sont là. La première pensée, c'est que prophétiser peut dire avant, prédire, annoncer l'avenir. Avant. Mais dans le cadre d'un Corinthiens 14, du don de prophétie, il est surtout question de dire devant. Dire devant l'assemblée. Parler à haute voix, parler publiquement, parler couramment dans la langue maternelle, courante. Prophétiser consiste donc à délivrer un message ponctuel sous l'impulsion, l'inspiration du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre écrit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, de Pierre 1, 21. En d'autres mots, celui qui prophétise devient un porte-parole. Quelle responsabilité, mais aussi quelle grâce, quel honneur Dieu nous fait. Nous parlons aux gens pour Dieu, nous parlons de la part du Seigneur. Et donc nous disons que la prophétie, le don de prophétie est un don de proclamation, c'est un don vocal, un don qui doit être proclamé, un don qui doit être entendu. La prophétie est un message surnaturel. Ce n'est pas un message que quelqu'un a préparé, comme je le fais maintenant, une prédication, un enseignement. La prophétie n'est pas un message médité à l'avance. Le don de prophétie a une dimension spontanée. D'ailleurs, en hébreu, le mot prophète fait référence à quelque chose, à une parole qui jaillit. Le don de prophétie, c'est un jaillissement, c'est un débordement. Attention, je n'exclus pas l'idée que le Seigneur ait accroché nos pensées par une image, une parole, une lecture plusieurs jours auparavant. Déjà, le Seigneur a pu nous préparer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous avons préparé le message. Mais la parole du Seigneur, l'image, la pensée que Dieu nous donne est là dans notre cœur. Et vient le moment, pendant le culte de l'assemblée, où l'Esprit de Dieu nous pousse. Et alors, la parole jaillit selon l'inspiration qu'il nous communique. Ce qui me permet de dire que lorsque une personne prophétise, apporte un don de prophétie dans l'Église, ce n'est pas une bonne occasion pour prêcher. Le don de prophétie n'est pas une prédication. Et ce n'est pas le temps ni le lieu pour exprimer ses convictions personnelles, même si elles sont bibliques et scripturaires. Nous sommes censés parler de la part de Dieu et non pas de la nôtre. Donc ne confondons pas le don de prophétie et la prédication. Je voudrais en venir un instant au fondement de la prophétie. Premièrement, la prophétie est fondée sur l'amour. Quand j'aurai le don de prophétie, etc., etc., si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, 1 Corinthiens 13:2. Sans amour, les prophéties sonnent creux. Et au lieu de manifester la grâce de Dieu, elles heurtent. La prophétie se nourrit de compassion. Elle se nourrit du fait d'être concernée, d'avoir un fardeau pour une personne, pour une situation, avoir le désir d'encourager, d'exhorter. La prophétie se nourrit d'amour, elle s'accomplit dans l'amour. La prophétie aussi s'exerce selon la foi. Et deux niveaux de foi doivent être considérés ici. D'abord, notre foi. Le Saint-Esprit œuvre par l'intermédiaire du croyant selon la mesure de foi qu'il trouve dans son cœur. Et ce qui va être apporté à l'Église dépend aussi en grande partie de la foi qui habite dans mon cœur. Ce que je suis prêt à entendre de la part de Dieu, ce que je suis prêt à apporter par la foi de la part du Seigneur. Et puis il y a aussi la foi comme sainte doctrine. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 6, qu'il nous faut prophétiser selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce que veut dire cette expression ? C'est qu'il faut prophétiser conformément à la parole de Dieu. Si vous relisez 1 Corinthiens 12, ou la deuxième aux Thessaloniciens, vous serez surpris de découvrir que dans ces assemblées, dans l'assemblée de Corinthe, certains avaient osé prophétiser que Jésus est anathème. Alors dit comme ça, ça paraît très beau. Mais si on le dit dans un français courant, ça veut dire Jésus est maudit. Non. Comment arriver à prophétiser de telles choses ? Ça nous paraît, parce que ce n'est pas du tout conforme aux Écritures. Et dans l'église des Thessaloniciens, certains avaient prophétisé que l'enlèvement avait déjà eu lieu. La résurrection avait eu lieu. Les autres, du coup, étaient un peu paniqués. Et Paul leur dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai enseigné jusqu'à présent. Et il a dû redresser les situations. Ce qui est prophétisé est soumis à l'autorité des Écritures. La prophétie n'est pas au-dessus de l'Écriture. L'Écriture vient en premier et la prophétie est en dessous de l'Écriture. Quelques caractéristiques du don de prophétie, et là, c'est des points importants, très importants. Vous avez un vocabulaire un peu technique, il y a des choses très importantes et certainement qui peuvent répondre à certaines questions que vous avez en vous. Tout d'abord, je voudrais vous dire que la prophétie est partielle. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 31, Jean dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous », il fait référence à Jésus, « mais celui qui est de la terre, il parle comme étant de la terre. » Jésus est d'en haut, nous sommes de la terre. Et si nous parlons comme étant de la terre, ça veut dire que nos paroles sont imparfaites, qu'elles sont partielles, parce que nous n'avons pas la connaissance de tout. Et Paul, dans 1 Corinthiens 13, 9, dit ceci, « Nous prophétisons en partie. » Et le fait que la prophétie soit partielle dépend en grande partie de la qualité de l'inspiration de celui qui parle. De quelle manière celui qui parle est-il inspiré ? C'est-à-dire quelle écoute il a de Dieu ? Quelle sensibilité, quelle réceptivité il a de la parole du Seigneur ? Parce que, évidemment, entre l'émetteur divin et l'émetteur humain, la bouche, jusque aux oreilles de l'homme, c'est parfait. Mais quand ça commence à passer à travers nos oreilles, notre cœur, notre intelligence, pour ressortir de la bouche, il peut y avoir des parasites sur la ligne. Et le message peut être troublé, mal entendu, mal compris, mal dit, déformé. Pourquoi ? À cause d'un manque de foi, à cause d'un manque de communion, un manque de sanctification, à cause de toutes sortes de compromis qui viennent altérer la parole du Seigneur, la révélation de l'Esprit. Alors de ce principe de partialité émane une autre caractéristique de la prophétie. Ne soyez pas troublés par ce que je vais dire, mais nous allons bien le comprendre, la prophétie est imparfaite. C'est pour ça que Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5:20, il écrit deux choses dans ce verset, il dit d'abord « ne méprisez pas les prophéties ». Dans cette église des Thessaloniciens, certains avaient été troublés par toutes ces paroles qu'il y avait. Oui, alors certains disaient, mais la résurrection a déjà eu lieu, d'autres racontaient toutes sortes de choses et on était perdus. Alors du coup, il y avait un discrédit qui avait été jeté. On disait, mais ça ne sert à rien. Paul leur dit, non, la prophétie est peut-être imparfaite, mais ce n'est pas une raison pour la rejeter. Par contre, voilà quelle doit être votre attitude, examinez toutes choses. Et quand il dit examinez toutes choses, il n'est pas examiné celui qui prophétise. Il dit examinez ce qu'il dit, non pas dans le but de tailler, mais dans le but de garder ce qui est bon, de peser les choses. Mais le verbe examiner nécessite une capacité de réflexion, d'analyse spirituelle, de peser les choses, d'après quoi ? Non pas d'après mes propres pensées. Parce que si celui qui prophétise est imparfait, celui qui analyse, il n'est pas meilleur que l'autre. Donc, ce n'est pas d'après mes pensées, mes sentiments que je dois examiner ce qu'il a dit, mais je dois avoir cette intelligence spirituelle pour comprendre que je dois retenir ce qui est bon d'après la parole du Seigneur. Enfin, la prophétie, le don de prophétie, Paul le dit, est temporaire. 1 Corinthiens 13, 8 à 10, l'amour ne périt jamais, mais les prophéties prendront fin. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Nous le comprenons bien, quand le Seigneur sera venu, quand nous rentrerons dans le parfait céleste, divin et éternel, il n'y aura plus besoin de prophétie puisque tout sera dévoilé, tout sera révélé, tout sera connu. Et donc, ce qui demeurera, c'est l'amour pour l'éternité. Je vais avancer maintenant et aborder le point suivant. Qu'exprime une prophétie ? À quoi sert une prophétie ? La prophétie poursuit des objectifs très concrets. Et afin de bien cadrer l'exercice de la prophétie, et surtout pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les prophéties de l'Ancien Testament, parce qu'aujourd'hui, il y a cette mode. Beaucoup, du moment quand ils prophétisent dans l'Église, ça, c'est, malheureusement, on le voit dans certaines assemblées, alors le prophète, c'est Élie ressuscité dans l'Église. Et tout le monde vient pour écouter. Mais c'est absolument pas ça. La prophétie du Nouveau Testament n'a rien à voir avec celle de l'Ancien Testament. Et Paul nous définit ce que doit être le contenu de la prophétie. La prophétie, 1 Corinthiens 14, 3, est là pour apporter une parole d'édification, d'exhortation ou de consolation. Et il rajoute au verset 25 aussi, pour dévoiler les secrets d'un cœur. Que signifie édifier ? Édifier veut dire bâtir, construire, avec une idée de structure, d'organisation. Donc la prophétie participe à la construction de l'Église. Je vous disais, nos églises se sont développées, se sont stabilisées avec l'exercice du don de prophétie. Si nous perdons ce don, nous perdons un instrument de consolidation et d'édification de l'Église. Nos églises seront fragilisées. Et en même temps, elles nous aident personnellement, en tant qu'auditeur, à devenir ferme dans l'amour, la foi, la sainteté, dans l'Esprit du Seigneur et selon la vérité de la Bible. Quand on entend des paroles qui édifient. Oh, je le sais, et je le dis avec respect, mais nous n'entendons pas suffisamment de paroles prophétiques qui édifient. Comme nous allons le voir, nous entendons beaucoup de paroles de consolation. Les gens ont besoin d'être consolés. Nous entendons beaucoup de paroles d'encouragement, les gens ont besoin d'être encouragés. Mais nous avons besoin d'entendre des paroles qui édifient, qui donnent de la stabilité, qui donnent de l'élévation, de la construction. Mais pour apporter une parole qui édifie, ça demande beaucoup plus de foi que pour apporter une parole qui console ou une parole qui encourage. Parce que pour apporter une parole qui édifie, il faut être pétri de la parole de Dieu. Il faut être nourri de la Bible. Nous avons besoin d'entendre des paroles qui édifient, qui marque la présence de Dieu au milieu de son Église. Mais le don de prophétie est aussi donné pour exhorter, encourager, adresser un appel pressant pour réconforter et, parce que le mot veut dire ceci aussi en grec, parfois reprendre, si nécessaire. Et dans ce cas de la prophétie, le don de prophétie stimule les croyants, leur donne même des défis à atteindre. Elle cherche à nous pousser à avancer vers un but avec un plus grand amour, une plus grande consécration. La prophétie sert à nous ouvrir les yeux vers quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus saint. Et ces paroles nous propulsent en avant. Le don de prophétie est aussi donné pour consoler, ce qui signifie à l'origine apporter une huile guérissante, adoucir, se tenir à côté de quelqu'un. La prophétie apporte la consolation à ceux qui sont épuisés, à ceux qui sont affligés. Mais souvent une prophétie comprendra ces trois éléments en même temps. Et d'ailleurs nous sentons bien la complémentarité de ces trois choses. En effet, que sert-il d'être édifié ou exhorté si la consolation n'est pas d'abord donnée ? Si quelqu'un n'est pas consolé, il ne pourra pas être encouragé. Il faut que son cœur soit déjà consolé. Mais s'il n'y a que la consolation ou l'encouragement sans l'édification, l'affermissement, le but est-il atteint ? Il faut toutes ces choses. Et maintenant, je voudrais me tourner vers chacun d'entre nous en nous posant cette question. Comment nous préparons-nous à prophétiser ? Parce que nous sommes tous concernés, je l'ai dit. Alors, en tout premier lieu, il nous faut nous rappeler que la prophétie est une grâce, c'est un don. Donc nous ne la méritons pas. Toutefois, l'apôtre Paul nous dit ceci, aspirez aux dons spirituels et notamment celui de prophétie. Il doit y avoir de notre part une démarche. Et aspirer, ce n'est pas simplement y penser. Ce n'est pas simplement pousser un petit soupir, « Oh Seigneur, j'aimerais bien ». Non, aspirer à exercer les dons spirituels se manifeste par la volonté de bâtir une communion avec le Saint-Esprit. Toute prophétie est une grâce, mais ne nous trompons pas, la prophétie exercée régulièrement est la conséquence d'une relation suivie et entretenue avec Dieu. Prophétiser, c'est devenir partenaire du Saint-Esprit. Qui désire des communications de l'Esprit se doit d'abord de cultiver une communion avec le Saint-Esprit. Sans communion, pas de communication. Et ceci au travers de la louange, de l'adoration, de la prière. Louer, adorer, prier Dieu dans notre culte personnel, comme à l'assemblée. Comment imaginer apporter des paroles prophétiques si d'abord vous ne prenez pas le temps de louer le Seigneur dans l'église. Le temps de prier le Seigneur dans l'assemblée. Mais dans ces temps de louange, de prière, Dieu nous renouvelle dans notre relation avec lui. Et surtout, la louange, la prière augmente notre perception des choses d'en haut. Mais il nous faut aussi une vie imprégnée de la parole. Tout chrétien se doit de lire la Bible. Mais il faut plus que lire les Écritures quand on aspire à prophétiser. Quand on aspire à prophétiser, il faut savoir prendre du temps pour méditer. Méditer, se nourrir, lire, je lis. Je me nourris de la parole. Elle rentre en moi, je la médite, je la digère. Quelqu'un a écrit, si les apprentis prophètes étaient davantage enracinés dans la parole, il y aurait certainement moins d'erreurs dans les prophéties ou des erreurs moins graves. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et enfin, édifions-nous par le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. Comment édifier l'Église si d'abord nous ne sommes pas édifiés nous-mêmes? Et pour être édifiés nous-mêmes, il nous faut parler en langue. Parler en langue est fondamental si nous voulons être renouvelés dans notre pensée, si nous voulons être édifiés. Le parler en langue nous ouvre l'esprit. Il prépare notre esprit pour que le Saint-Esprit vienne déposer en nous ses paroles. Il nous amène dans une plus grande perception, une plus grande sensibilité au Saint-Esprit. Parler en langue est fondamental pour quiconque veut exercer un service du Seigneur à travers les dons spirituels. Cette préparation n'est pas simplement une préparation du dimanche à 8h50 ou à 13h50 pour vous. Cette préparation doit être permanente. C'est un état permanent. Paul parle de l'athlète qui se prépare, qui s'entraîne, qui se discipline. Et dans l'Église de Dieu, nous venons pour servir. Nous sommes des ouvriers, des soldats du Seigneur. Et nous poursuivons donc un triple but à travers cette préparation. Nous maintenir disponibles pour le Saint-Esprit. Je suis prêt, Seigneur. J'arrive au culte, je suis prêt à être utilisé. Deuxièmement, augmenter notre sensibilité à l'écoute de l'Esprit. Tout au long de la semaine, régulièrement, fur et à mesure, progressivement, j'apprends à écouter le Saint-Esprit. J'apprends à discerner les mouvements de l'Esprit dans ma vie. Et en même temps, développer notre maturité afin de communiquer des paroles puissantes, des paroles précises. Tout ça, ça se fait tout au long de la semaine en permanence. Et quand vient le moment du culte, il faut aussi apprendre à se disposer à la prophétie. Le culte est un temps intense. Et malheureusement, avec l'enchaînement de nos cultes, nous sommes obligés d'avoir un timing parfois très serré. Et donc le culte est encore plus intense et il nous faut malgré tout nous disposer à l'écoute du Saint-Esprit en vue d'exercer la prophétie. Ce qui nécessite une concentration et une écoute particulière du Seigneur tout en gardant son calme. Parce qu'exercer la prophétie, ce n'est pas simplement parler. Il y a des gens, ils prophétisent, mais ils prophétisent hors du temps. Pas parce que le Seigneur nous pousse qu'il faut tout de suite parler. Il faut savoir apprendre à lire un culte, à le lire spirituellement. Il y a un temps pour apporter une parole. Et c'est une pratique qui grandit en nous. Avoir cette sensibilité à l'Esprit de Dieu. Amen. La pratique de la prophétie passe par l'amour. L'amour est le fil conducteur de la prophétie. Nous avons déjà dit que la prophétie est fondée sur l'amour. Sa pratique en sera donc imprégnée. Comprenons que ce n'est pas l'amour qui est au service de la prophétie, mais la prophétie à celui de l'amour véritable. Quelqu'un, paraphrasant l'apôtre Paul, a écrit « La prophétie est temporelle, l'amour est une valeur éternelle ». Quiconque veut donc prophétiser dans l'Église doit d'abord rechercher l'amour, la voie par excellence, et cela passe par deux choses. Écoutez-moi bien. Voilà comment se manifeste cette voie par excellence, cet amour. À l'image de Jésus, être ému de compassion pour son prochain, pour son frère. Car prophétiser, c'est être animé d'un fardeau de compassion, et certainement pas de jugement. Prophétiser, c'est aussi exprimer les sentiments qui sont dans le cœur de Dieu. Prophétiser, c'est aussi être animé d'un esprit de service. Et si vous venez à un culte avec ce désir, cette aspiration à être un instrument de l'action, de la manifestation du Saint-Esprit, vous ajoutez une autre dimension à votre culte. Parce que vous venez au culte avec l'Esprit de Jésus, l'esprit du diaconat. Vous venez non pas pour vous et avoir une relation avec Dieu. Oui, c'est incontournable. Mais vous ajoutez cette dimension, Seigneur, je viens au culte aussi pour servir mon frère, pour servir ma sœur, à travers les dons spirituels. Vous ajoutez donc une dimension à l'image de Jésus-Christ qui, par amour pour ses disciples, ne s'est pas regardé comme supérieur à eux, mais s'est humilié jusqu'à se dévêtir de son vêtement pour leur laver les pieds. Et celui qui prophétise, inspiré par le Saint-Esprit, ne doit certainement pas estimer qu'il occupe une place supérieure aux autres. Au contraire, la prophétie s'accomplit dans un esprit d'humilité. On est là pour servir. Et je peux vous dire que si vous rentrez dans cette vision du culte, vous allez enrichir votre culte. Vous allez apporter quelque chose de nouveau à votre culte. Déjà, plusieurs au milieu de nous connaissent la valeur du diaconat dans l'assemblée, en servant l'Église d'une manière ou d'une autre. Je vois nos frères qui sont à la vidéo pour apporter les messages aux autres. Je vois nos sœurs et toute l'équipe des moniteurs pour enfants que nous regardions tout à l'heure et qui aussi servent le Seigneur et servent nos enfants tout au long de l'année. Donc vous connaissez déjà pour beaucoup cette dimension du service, mais je voudrais vous dire que le diaconat dans le culte passe aussi par les dons spirituels. Découvrez cette dimension, ajoutez cette dimension à votre culte. Alors on est animé d'amour. Oui, mais comment vient le fait d'apporter une prophétie? Je l'ai dit au début, la prophétie est un don de l'Esprit. Il vient du Saint-Esprit qui le distribue comme il le veut et il le distribue à des hommes. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute prophétie naît donc d'une impulsion de l'Esprit. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Une présence particulière. Alors, certains appelleront cela l'onction. Et si je veux être biblique, il faut appeler ça être rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous remplit à un moment donné. Et il nous communique quelque chose. C'est là qu'il va nous pousser, il va nous amorcer. Il fait naître en nous une impulsion. Peut-être une parole, un mot, rarement un message tout entier. Peut-être une image ou d'autres sortes d'impulsions. Et si je dis cela, c'est dans l'espérance de créer un déclic chez vous. Je veux dire chez toi. Il m'a fallu du temps pour comprendre ceci. J'ai, une année, un automne, dit au Seigneur, je vous l'ai déjà peut-être raconté, mais je veux revenir sur cet exemple. Seigneur, j'avais 28 ans, j'ai dit, Seigneur, il faut que j'exerce les dons spirituels, ça fait 10 ans que je suis baptisé, et je vois des beaucoup plus jeunes que moi qui exercent les dons spirituels. C'est pas possible, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. J'ai prié le Seigneur pendant plusieurs semaines. Et puis, un jour, dans un culte de l'Assemblée, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Une puissance remplie de l'Esprit. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut... Et alors que j'étais dans cette... Hop, une sœur de l'Église commence à apporter un don en langue. Et sitôt qu'elle a fini, hop, j'ai laissé cette pression qui était en moi. Et voilà, les paroles sont venues, c'était un don d'interprétation. Quelque temps plus tard, le Seigneur m'a amené dans cette même relation de foi à apporter des dons en langue. Mais il a fallu une année de plus pour que j'exerce pour la première fois la prophétie. Alors pendant cette année-là, je me disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ok, j'ai le don des langues, l'interprétation, mais il me dit quand même d'aspirer à la prophétie. Pourquoi ça ne vient pas? Et puis pendant plusieurs mois, c'était comme ça. Et un jour, clairement, Il y a une image qui est venue devant moi, une image d'une haie qu'un homme était en train de travailler, et Dieu m'a amené à réfléchir sur cette image pendant un culte, et le Seigneur m'a dit, vas-y maintenant, parle. Parle. Et vas-y. Et j'ai commencé à exprimer ce qui est là. Et j'ai dit, mais c'est ça le don de prophétie. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est pas la première fois qu'il y a de telles pensées dans mon cœur. Ça fait des mois que tu avais mis en moi soit des images, soit des pensées, soit des paroles. Je n'avais pas compris ce que c'était. Maintenant, je comprenais. Et vous comprenez pourquoi je dis ça? Parce que je suis certain que plusieurs au milieu de nous, Dieu a mis dans vos cœurs des semences de dons de prophétie. C'est là. Et vous dites, mais Seigneur, okay, donne-moi quelque chose. Et Dieu te dit, mais je t'ai donné quelque chose. Et je prie le Seigneur pour qu'aujourd'hui, 1, 2, 3 reçoivent ce déclic spirituel. Alors évidemment, il faut apprendre à reconnaître les impulsions de l'esprit. Maintenant, j'ai appris avec le temps, j'ai appris à déchiffrer, même à déchiffrer un culte, à sentir quand vient le temps où Dieu veut parler d'une manière ou d'une autre, un temps où Dieu a donné un don spirituel. On apprend cela. Mais au début, on est, oui, petit Samuel. On est comme Samuel. Tu m'as appelé, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites comme petit Samuel, allez voir les vieux. Allez voir Bernard. Ne venez pas me voir. Venez voir des anciens, venez voir vos pasteurs. Et on parlera, et on vous encouragera. Et la prochaine fois, vous direz, parle car ton serviteur écoute. Et ensuite, vous parlerez. Avec le temps, vous apprendrez comme Élie. À discerner la voix de l'esprit. Oh non, non, pas dans le feu, pas dans le tonnerre, pas dans le vent violent. Dans le doux murmure, quand l'Esprit de Dieu vient parler à notre oreille. Alors si la prophétie naît dans l'amour, portée par l'amour, si elle est poussée par l'Esprit de Dieu, elle doit être aussi, elle s'accomplit dans la foi, elle est communiquée dans la foi. La prophétie, apporter une prophétie dans l'Église demeure toujours une action de foi. Et là, je touche encore des choses très pratiques. Cela implique donc de dépasser de nombreuses craintes. De nombreuses craintes. Première question, cette pensée vient-elle de Dieu? Ouf. Et alors là, c'est la machine à laver intérieure. Position essorage. Et là, ça tourne. Suis-je capable d'apporter une parole, une prophétie? Que vais-je dire? Et surtout, que vont dire les autres de moi? De ce que je vais dire? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que dépasser cela, ça ne peut se faire que dans la foi, dans la confiance dans le Seigneur. Que vous puissiez dépasser ce stade. Mais pour nous, ça a été l'objet d'un enseignement que j'ai apporté l'année dernière, me semble-t-il. Il convient que de faire de notre assemblée le lieu favorable à la manifestation des dons spirituels. Un lieu où on sent qu'on peut librement commencer à prophétiser, à apporter une parole, sans peur d'être critiqué. Je ne dis pas que vous ne serez pas examiné. Non pas vous, mais les paroles, parce que ça, Dieu nous demande de le faire. Mais on n'est pas là pour mettre une note. 1, 2, moi, il a la moyenne aujourd'hui, 10. Non, c'est pas ça. On est là surtout pour vous encourager, vous dire, vas-y, tu commences, fais-le. On est là pour te soutenir. Et quand il y a cet amour dans l'Église, quel est le lieu favorable à l'Assemblée, un lieu d'encouragement, de liberté, d'écoute, alors c'est sûr que c'est un bon endroit pour commencer à exercer les dons spirituels. Et puis, pensez aux personnes qui ont besoin d'entendre la parole que le Saint-Esprit a mise sur nos cœurs. Si cette parole n'est point apportée, comment l'entendront-ils ? Comment seront-ils consolés? Comment seront-ils exhortés? Comment seront-ils avertis? Si cette parole reste dans votre cœur.
Ah, je sais, vous me direz, oh, le Seigneur choisira quelqu'un de plus compétent. S'il y a besoin qu'il entende, il choisira quelqu'un d'autre. Sauf que Dieu t'a choisi. Fuiras-tu encore longtemps? Quels arguments mettras-tu en avant? Alors je ne peux que te dire que ta bouche commence à parler selon l'abondance que Dieu a déposée dans ton cœur. Et que les jeunes gens commencent à prophétiser selon la parole de Joël. En conclusion, je veux dire ceci, et c'est quelque chose de très important, qui me ramène à mon introduction. La prophétie doit demeurer une signature de la présence et de l'action de Dieu dans nos cultes de l'Église. Seulement par crainte, par manque de préparation, par manque de disposition de cœur, nous laissons trop souvent cet espace spirituel vacant, inoccupé, non pratiqué. Dieu est celui qui parle. Le problème ne vient pas de Dieu, mais il vient de nous. Dieu cherche au milieu de nous des prophètes qui apporteront sa parole. Trop souvent, nous avons laissé tomber les paroles de Dieu. Regardez, il y en a peut-être sous vos chaises, il y en a même certainement beaucoup. Elles sont là, mais elles n'ont pas pu être semées dans le cœur de ceux qui en avaient besoin. Deux dangers me semblent guetter les églises aujourd'hui. Premièrement, le contentement d'un culte allégé. Par allégé, je veux dire se contenter de cultes peu exigeants en termes spirituels. On vient, on assiste. Je dis on assiste. Si on participe, c'est bien. Mais quelque part, il n'y a pas vraiment une attente d'un engagement. Ce n'est pas là le signe d'une bonne évolution de l'Église. Mais c'est vrai que beaucoup se contentent de l'aider, de voir combien Dieu est bon. Le Seigneur voudrait qu'avec le temps, son peuple soit capable de manger de la viande, même si au début, elle est hachée. Il faut passer par là, par des choses simples, et on avance. Et puis avec le temps, on peut passer à des choses un peu plus élaborées. Mais nous ne nous contentons pas de culte allégé. Ne nous contentons pas, et là c'est un autre pan de l'Église, de culte prédigéré. Il y a les cultes allégés, les cultes prédigérés, je veux parler de culte où on attend que le pasteur ou quelques personnes préposées à ce service nous communiquent les paroles que nous voulons entendre. Je le disais, il y a le prophète. Et alors on vient à l'église pour entendre le prophète. Prophète, prophétise sur moi. Dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre, ce que je veux entendre. Ce n'est pas du tout ça la démarche du Seigneur, la démarche biblique. Peut-être au temps de Samuel, on allait consulter le voyant. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire de nous des prophètes. Dieu fait de nous des adorateurs, des sacrificateurs. Jamais le Nouveau Testament nous dit d'aller consulter le voyant. D'aller, là je ne parle pas du voyant derrière sa boule, je parle à la manière de l'Ancien Testament. Jamais le Nouveau Testament nous dit d'aller voir le prophète qui va nous dire « Ah, tout ce que j'ai besoin d'entendre ». La Bible nous dit d'aller d'abord consulter la parole de Dieu et de nous servir le Seigneur en tant que prophète dans son Église. Ça, c'est des cultes que nous voulons. Non, nous ne voulons pas de cultes prédigérés, avec des gens préposés à ce service. Et ces deux formes de cultes sont deux écueils, malheureusement, de plus en plus répandus dans le monde pentecôtiste et charismatique. Rappelons-nous donc que la volonté du Seigneur est que nous soyons un peuple de prophètes et non de gens qui écoutent des prophéties. Je finis par ce verset. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 29, Dieu a pris une part de l'esprit qui reposait sur Moïse et il l'a répandu sur plusieurs anciens dans le camp d'Israël. Et Et Josué s'est inquiété de ce qu'il y avait d'autres hommes que Moïse qui commençaient à prophétiser parmi le peuple. Alors Moïse va lui répondre ceci, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Amen. Nombre 11, 29. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension du culte, dans un nouvel esprit, un nouvel engagement. Cet après-midi, je veux prendre le temps, on a souvent prêché sur ça, Dieu merci, il y a des progrès qui sont là. Mais je veux prendre encore le temps de prier pour vous. On va simplement, je vais vous appeler à vous lever. Vous qui, dans votre cœur, connaissez ce que je veux dire quand je parle d'impulsion de l'esprit. Quand Dieu vous amorce et vous ne savez pas quoi faire. Vous qui aspirez vraiment à quelque chose d'autre dans la vie de l'esprit. Vous qui aspirez à servir l'Église, servir le peuple de Dieu avec ses dons spirituels. Vous y aspirez vraiment. Et vous voulez franchir ces étapes en disant, Seigneur, moi je veux vivre ta parole, je veux la vivre pleinement. Alors si tu fais partie de cela, si ce message a un écho en toi, si tu as ce désir d'avancer, je voudrais t'inviter simplement à te lever, à te tenir à ta place. Cette démarche, tu l'as fait devant le Seigneur.